Bienvenue sur Radio Duo 89.5 sur Saint-Etienne et Périphérie, 89.5 pour la bande FM bien sûr, pour la toile, le net, www.radiodio.org. Nous sommes le troisième jeudi de chaque mois et comme le veut la règle pour cette saison 2012-2013, le troisième jeudi de chaque mois, eh bien, a lieu cette émission réalisée en partenariat avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Ce sont des enseignants, chercheurs, étudiants, universitaires, géographes, historiens de Saint-Étienne, de différents laboratoires de recherche d'ailleurs, qui ont constitué ce groupe de recherche où il s'agit eh bien, effectivement de mettre le monde ouvrier, la mémoire ouvrière en exergue à partir de différents programmes d'enquête. Différentes actions de valorisation également de ces recherches sont menées par le GREMOS, aujourd'hui sous statut associatif, des journées d'études, des actes de ces journées d'études publiés. Il y a également des expositions montées avec différents partenaires, réalisation de films parfois, et puis eh bien, cette émission de radio qui a lieu une fois par mois. Pour ce jour et ce mois de février, nous retrouvons à nouveau, je dirais, Maurice Bedouin et Jean-Michel Steiner pour nous parler aujourd'hui de la grève des mineurs de 1963 dans le bassin de la Loire. Cette émission est rediffusée également en fin de journée entre 17 et 18 heures et le dimanche suivant à 21 heures avant qu'elle ne soit mise en ligne sur le site du GREMOS www.gremos.lautre.net. Maurice Bedouin, Jean-Michel Steiner, bonjour à vous.
Bonjour Lionel.
Bonjour.
Émission spéciale, grève. À nouveau à l'honneur, grève des mineurs, 1963 dans le bassin de la Loire. Ce sera le programme, tout le programme de cette émission aujourd'hui.
Grève de 1963 dans le bassin de la Loire, mais grève de tous les bassins miniers de France, à l'appel des syndicats, à partir du 1er mars 1963, une grève très longue qui durera 35 jours et qui s'acheva le 5 avril 1963. Sur le bassin de la Loire, cette grève a pris une importance extrêmement grande. Elle n'est pas la plus longue de toutes les grèves. La plus longue fut celle de 1948. Mais proportionnellement, elle a probablement mis en jeu un plus grand nombre de mineurs. Sachez qu'on a sur le bassin de la Loire 7500 mineurs en grève sur les 8200 employés des HBL de l'époque. Pourquoi cette mobilisation aussi forte ? Parce que probablement les mineurs se disaient que les sanctions dont ils étaient menacés, puisqu'il y avait réquisition, ne seraient pas appliquées. Et il est bien vrai qu'en dépit de la réquisition, les sanctions n'ont pas été appliquées. Ce fut, deuxième caractéristique, une grève qui s'est réalisée dans un calme total. Et troisième caractéristique, mais qui est plus nationale, celle-ci, c'est que pour mettre fin à la grève, le gouvernement de Gaulle-Pompidou a fait appel à une instance indépendante qui avait été appelée le Comité des Sages pour faire le point sur les retards qui avaient été pris en matière de salaire par les différentes corporations et notamment par les fonctionnaires.
Oui, moi, la première remarque que je ferais par rapport à ce que tu viens de dire, Maurice, 7500 grévistes, 8000 et quelques mineurs en 1963, ils étaient 23 ou 24 000 en 1948, donc déjà les chiffres nous indiquent la décrue de l'emploi dans le bassin et le signe qu'il se passe des choses qui vont devenir irréversibles. Ensuite, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que de 48 à 50 à 63, les conditions ont nettement changé. La grève de 48, nous en avons parlé plusieurs fois, on n'y reviendra pas en détail maintenant. Ce qui change, c'est le bilan énergétique français, d'abord. Le charbon, qui était vraiment le pain de l'industrie en 45, plus de 80% du bilan énergétique en 45, est en train de perdre des parts de marché, pour employer un vocabulaire de l'économie libérale, puisqu'il ne représente en 63 plus que 50% du bilan énergétique. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé d'abord le développement de l'énergie hydraulique. On rappelle que, par exemple, en 49, c'est l'inauguration du grand barrage de Génissia. Il y a toute l'installation de l'hydroélectricité dans le la vallée du Rhône. Donc, ce n'est pas terminé, mais c'est déjà bien engagé. Et puis, il y a au milieu des années 50, le pétrole qui commence à faire une percée assez significative. On est encore à l'époque en Algérie, dans une Algérie française, où on vient de découvrir les grands gisements d'Assim et Saoud. Bien sûr, le pétrole algérien sera minoritaire, mais le pétrole, on sait qu'il est très, très peu cher à l'époque, jusqu'en 1973. Donc, le gouvernement pousse à un développement de l'utilisation du pétrole. Et puis, il y a le gaz de lac. Donc, tu disais à propos du gaz de lac, donc il arrive fin 62 dans la région de Clermont-Ferrand. Et tu avais une remarque à ce propos ?
Oui, pour les syndicalistes de l'époque, c'était un véritable coup de poignard dans le dos, puisque par la suite, leur revendication a consisté tout simplement à dire « Essayons d'organiser une espèce de sanctuaire commercial dans les 100 km autour de Saint-Étienne, en considérant que c'est notre espace privilégié pour vendre le charbon. » C'est dire combien l'ambition
avait diminué.
Avait diminué. Oui.
Et donc, cette question de la modification du bilan énergétique, elle a des conséquences. D'abord, qui vont se traduire par la fermeture d'un certain nombre de puits, qui sans doute étaient condamnés par leur obsolescence, ceux de la vallée du Gier. Mais même les puits, les grands puits, les trois grands géants, que sont Pigeot, Courriot et le puits Charles, commencent à être regardés comme des puits qui coûtent cher, qui rapportent moins que ce que l'on imaginait. Alors, pour donner un exemple précis, on commence à parler de mévente du charbon. On estime qu'en 1954, les stocks atteignaient près de 8 millions de tonnes. Donc, les avis sont partagés. Je ne veux pas être long là-dessus, mais les avis sont partagés. Pour le gouvernement, pour les industriels, c'est parce que le charbon français n'est pas assez rentable, parce qu'il coûte trop cher. Pour les syndicalistes, c'est parce qu'on fait venir du charbon. Alors, jusqu'en 1955, le charbon de la Sarre, qu'on a, je dirais, presque gratuitement, puisque la Sarre est sous contrôle français jusqu'en 1955. Et puis, à partir de 1951, avec la CECA, le charbon de la Roure commence aussi à venir en France. Plus tard, c'est le charbon d'outre-mer, hein, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, qui va venir aussi à un meilleur marché. Donc, mévente, stockage, ce qui fait que le gouvernement réfléchit de plus en plus à une rationalisation du marché. Et en 1958, on commence à lancer des études. Première étude qui propose une réduction de 10% de la capacité de production. Et en 1960, le plan Jeanneney, donc, qui organise la réduction de la production. On est à l'époque à une production qui se situe aux alentours de 60 millions et on prévoit de tomber à 53 millions de tonnes au niveau national. Voilà, et donc c'est dans ce contexte que la grève va démarrer en 1963. Juste avant de te laisser la parole, je rappelle que les mineurs ont quand même la mémoire très vive de 48 qui s'est terminée par une grave défaite. Donc engager la grève en 63, c'était pas quelque chose d'évident pour eux.
Alors, je crois qu'il faut bien avoir en tête que cette grève de 1963 était, disons, presque populaire, qu'elle a été soutenue par l'ensemble des maires du département, par le Conseil général, et que la population, à travers ce qu'on en sait par les journaux, s'est montrée très accueillante à toutes les sollicitations qui lui ont été faites de la part des mineurs. Alors exactement, quelles sont les revendications ? C'est en tout premier lieu, et c'est là-dessus qu'il faut beaucoup insister, une question de salaire et de pouvoir d'achat. Il faut bien comprendre que la productivité a doublé en 15 ans, mais que le pouvoir d'achat des mineurs en 1963 a tellement baissé qu'il est ramené à celui de 1958. Par ailleurs, le retard du pouvoir d'achat le pouvoir d'achat des mineurs sur l'industrie privée est, semble-t-il, et les chiffres sont assez concordants, de moins 11%. Un mineur de jour gagnait en moyenne 40 000 francs par mois. Un mineur de fond gagnait en moyenne 55 000 francs par mois. Et les syndicats estiment qu'il faudrait augmenter de 30% les salaires. Par ailleurs, l'insuffisance des retraites est dénoncée. Le gouvernement n'a pas du tout revalorisé et il ne le souhaite pas. Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'entretien que Pompidou accepte de donner à la télévision, où là, il reconnaît tout de go la justification des revendications des mineurs.
On rappelle Pompidou, Premier ministre, depuis le mois d'avril 62 et renouvelé au mois d'octobre 62.
Et alors, un grand pédagogue, il explique que l'État ne peut pas faire mieux. Parce que si on se mettait à augmenter les mineurs, il faudrait augmenter tous les fonctionnaires. À ce moment-là, la France connaîtrait un regain d'inflation. Et à ce moment-là, le charbon coûterait beaucoup trop cher et serait dépassé encore plus par la concurrence étrangère dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Michel. Alors, quelle est la réponse des syndicats à ce raisonnement ? La réponse des syndicats est amusante. C'est-à-dire qu'ils expliquent que l'inflation n'est pas due aux salaires qui sont sans cesse en retard sur les prix, mais au budget militaire qui est gonflé par la force de frappe.
Bien sûr.
Et c'est très extrêmement important, les sommes qui sont englouties. La force de frappe englobe un tiers du budget national à l'époque.
Donc on rappelle que la force de frappe, c'est le fait que la France se dope d'une arme nucléaire depuis que De Gaulle est arrivé au pouvoir, en 1958.
Alors c'est donc avant tout une question de salaire qui est en jeu, mais c'est aussi la semaine des 40 heures et c'est aussi la quatrième semaine de congés payés. Est-ce que... On a planté le décor, là.
Oui. Hein? On peut, effectivement, depuis 1945, il y a une attente de progression, de progrès social. En 1956, le gouvernement Guy Mollet avait accordé la troisième semaine de congés payés. Et donc, les années 60 attendent la quatrième semaine.
Alors, essayons de rentrer dans le déroulement de cette longue grève. Et lorsque nous nous sommes documentés, lorsque nous avons fait un petit travail de recherche sur cette grève, nous avons rencontré quelques mineurs. Et voici le témoignage de Maurice Lyonnais, qui travaillait à l'époque au Puy Couriot, et qui nous dit des choses extrêmement intéressantes sur le mois qui a précédé la grève du mois de mars.
La grève 63 a débuté sur... On a fait la grève Perlet à Lannes.
Ah bon. Pour les salaires.
Pour les salaires, surtout. La grève 63, c'est toute une histoire de salaire. On fait la grève Perlet en 62. Alors, au lieu de faire ça, on en faisait la moitié.
Et vous remontiez.
Et on remontait. On faisait notre journée, mais au lieu de faire ce qu'on devait faire, on faisait que la moitié du truc.
Et c'était prélevé sur le salaire, alors
Non, il n'y a pas de retenue. Mais ils se sont fâchés, les ouvrières. Les ouvrières se sont fâchées. Oui, mais... Seule fois que j'ai mis les pieds à la préfecture, ça doit être en 62 au mois de novembre, on fait la grève Perlet. Ça a duré 8 jours, 10 jours, puis ils sont fâchés, ils ont mis les lampes au clou, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, les types, ils sont arrivés le matin, point de lampe. Les lampes étaient censurées, étaient bloquées. Nous, on était chargés, entre 1000 mineurs, il y en avait...
Quelle est l'expression que tu employais ? Les lampes ?
Au clou.
Donc, on ne pouvait pas accéder...
Non, les lampes étaient censurées.
Le lampiste...
Non, on ne pouvait pas accéder... Il ne les donnait même pas, les lampes, à l'époque. C'est nous qu'on les prenait au tableau.
Voilà.
Le délégué, c'était...
Le
délégué, c'était Rémi Chante. L'impro-clou. Ingénieur, je ne me rappelle plus qui c'est, il était déjà levé, il y en avait un, il était déjà sur le champ de bataille. Et on dit,
C'est du lock-out, ça.
Hein?
C'est du lock-out.
Oui, c'était, oui, c'était du lock-out. Voilà, oui, exactement. Alors, bon.
Et vous n'étiez pas payé, alors?
Non. Là, ce jour-là, qu'ils se mettent des lampes au cou, je m'en rappelle plus, il y en avait 10-12, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus les noms, vraiment. Tiens.
Voilà. Ah, mais seulement pour quelques-uns?
Ah oui, pas pour le total. Pas pour le total, non, pas. Parce que le poste, il descendait à Couriot, à cette époque, en 62, il descendait de 250, 300 bonhommes passés. Alors bon, le délégué, c'était Rémi Chintre. Allez, on reste comme ça, on veut descendre les ouillères, elles avaient leur siège à l'époque, pas au clos, là-bas vers le...
Vers la préfecture.
Avant la préfecture, entre l'hôtel de ville et la préfecture. Mmh. Ils avaient le siège à cette époque. Et bon, téléphoné, il a marché. Dis-là, on arrive sur le pont noir, enfin tenue de mineur, on n'était pas encore. On voulait descendre en préfecture. Arrivé au milieu du pont, stoppé. Il y avait CRS dessus. Et qu'est-ce qui arrive? Le préfet en tenue.
Bonjour. Invalide, c'est pas ça.
J'étais souvent, ça devait être 6h30, 7h moins quart du matin. Ah oui, et en tenue le préfet, hein. Pas en civil, en tenue. Hein. Dessous, c'était plein de CRS. Ah, c'était bourré de CRS dessous le pont. C'est l'ancien pont qui était métallique. Enfin, métallique des deux côtés. De pipe. Alors, on avance. Le délégué, Rémi Chintre, il y avait Jacques Combier, Rémi Chintre. L'autre, c'était le délégué de surface. Il se rend sur face à face devant le préfet.
Je ne trouvais pas
une salle, discuter. Enfin. Puis le préfet dit qu'est-ce qui se passe, patati patata. Et il y avait des CRS en face de nous aussi, hein. Ben, il y en avait dessous. Il y avait des mineurs qui avaient les scophines en travers, la pointeur de l'autre côté. En tenue de. On était changé. Hein. Alors bon, le délégué, lui, pour pas éviter l'affrontement, il revient vers nous, il nous dit voilà. Le préfet nous reçoit à 11h, en préfecture. Vous allez vous changer. Il n'y a aucune sanction pour l'instant. Aucune sanction n'est prise. Et vous allez vous changer. Donc, on va se changer. On repasse sous les douilles, bien entendu, parce que vous avez les vêtements, tout ça. Je vais repasser. Et je suis allé en délégation à. Il nous a reçu le préfet. Et Michintre, Jacques Combier, Debelle, François Debelle. Ah bon, délégué surface, il nous reçoit là-bas.
Vous étiez quatre.
Hein?
Vous étiez quatre.
Je crois qu'on est.
Un petit groupe, quoi.
Peut-être 26.
Oui.
Peut-être 26. J'y étais, donc, bureau capitonné, double porte capitonné. Je suis dans un fauteuil, je suis pas grand, ils sont dans le fauteuil, on est quasi plus. T'es le préfet, et le préfet, c'est Maurice Grimaud. Il a été préfet de police aux événements de 68. Grimaud. C'est un ancien préfet qui avait été préfet en Savoie. Et ce préfet, il nous reçoit. Bon, ben ça. On reçoit. 3 jours après, le préfet a été muté.
En rapport avec.
En rapport au truc. Le préfet, il a été muté, le préfet. Il ne l'a plus gardé.
Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Le préfet, nous, il a pris note de. Il était avec nous, puis il avait un secrétaire à côté de lui. Alors l'autre, à l'époque, ça se tapait pas. Ça se tapait, je crois, en sténo, je crois. C'est en sténo. Le préfet, il a pris note. Il nous a bien écoutés. Il a même été surpris des conditions qu'on avait. Il nous a même dit un coup, c'est inadmissible que vous ne soyez pas payé dans les conditions que vous travaillez. Je me rappelle le mot qu'il avait tenu. Et il a dit, je prends vos doléances, je transmettrai au ministère. Mais 3 jours après, lui, il a été venu à bord, lui, il a muté, cliqué, on l'a fait revu, lui. On a changé de préfet. C'était souvent qu'on a eu fait des mouvements, c'était un des préfets qui nous avait reçus et ils n'avaient pas apprécié en haut.
Alors, comment ça s'est terminé? Vous avez continué?
La grève, disons, Perlée a pratiquement été suspendue, mais il y avait une tension formidable. Et c'est de là, de novembre, qu'on a travaillé novembre, décembre, parce qu'à l'époque aussi, on était tenu à travailler, parce que la prime de résultat était branchée sur le salaire, et si on faisait 24 heures de grève, la quinzaine, elle volait. On aurait travaillé les autres jours, mais la quinzaine, si on avait fait un jour de grève, elle volait.
C'était en matière de prime de résultat.
C'était la prime de résultat qui ça volait. Mais enfin, il y avait des discussions à Paris avec les syndicats. Et puis bon, la moutarde a été montée. C'est la pression, il y avait de la pression. Alors bon, il s'est passé les fêtes. Bon, disons qu'on est resté l'arme au pied, comme on dit. Et puis bon, on recommence en janvier. Et puis bon, toujours négociation. Il repoussait les négociations. Il repoussait les négociations. Alors, on a lancé un mouvement de 24 heures. Et le mouvement de 24 heures avait été lancé par tous les syndicats. Et puis bon, alors le gouvernement, à cette époque, c'est que la France, elle tournait au charbon. Vous l'oubliez ? Toute l'industrie tournait au charbon. Et même pendant le temps de grève qu'on a fait, on a fait deux jours pour alimenter les coqueries. Et les coqueries tournaient quand même au ralenti, mais elles tournaient, parce que si on arrêtait les fours, c'était cuit. Ils prennent un décret de réquisition. Oh là là, ça a été la bombe, là. Décret de réquisition, oui, terminé.
Donc la date, vous l'avez encore bien en tête.
Le 28 février 1963. Ils ont signé ça, dans la soirée. C'était, signé. Et à Saint-Chamond, puisqu'il y avait encore les mineurs, j'étais passé en mairie. Il y a encore là une bourse du travail, mais dans l'ancienne bourse, comme c'était fait. Et on tenait des permanences à la bourse. Et le décret, dans toutes les mairies minières, il y avait été affiché. Président de la République, Premier ministre, ministre de l'Industrie, il y avait je ne sais pas combien de signatures. Décret de réquisition, réquisitionnant tout le personnel des ouvrières nationales, les ouvrières de bassin, c'est-à-dire la Loire, la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, les Cévennes, tout.
La réquisition, ça ne s'était jamais fait dans l'histoire des mines.
Pas à ma connaissance, moi. Pas à ma connaissance, je pense pas. Ça avait été un mouvement, ça avait été le déclencheur, ça avait été fini. Et là, on a parti en grève et on a eu une solidarité parce qu'on s'est organisé.
Témoignage extrêmement intéressant de Maurice Lyonnais. Témoignage qui, bien entendu, emploie des termes qui ne sont pas forcément des termes de la vie de tous les jours. Alors, le terme de grève perlée serait plus exactement une grève du rendement. C'est-à-dire que les mineurs descendaient, mais ne produisaient pas. Un peu les bras croisés. Vous vous souvenez, quand les mineurs se présentaient sur le pont du Clapier avec leur escoffine en travers, l'escoffine, c'est tout simplement une scie à main, toute simple. Quant à la pointerole, c'est une pointe d'acier qui permet d'attaquer le massif à coups de burin. C'est un gros burin. Voilà. Témoignage qui nous met au cœur des réalités, puisque la grève va bientôt commencer au 1er mars. Le 28 février, nous dit Maurice Lyonnais, le décret de réquisition paraît au journal officiel. Et nous retrouvons des informations extrêmement intéressantes dans les journaux de l'époque. Par exemple, tout de suite, au début de la grève, le 3 mars, les ingénieurs font part de leur solidarité avec les mineurs en grève réquisitionnés. Et le dernier mot qui est prononcé par Maurice Lyonnais, là, c'est le terme aussi de solidarité. Ils le ressentent très très fort, les mineurs. Et peut-être que ce morceau, cette chanson de 1963... précisément, prête-moi 1000 balles, nous remet dans cette ambiance.
Voilà, après les lampes aux clous, on met les micros aux clous et on fait une petite pause avec le chanteur algérien Mayedine Bentir. Prête-moi 1000 balles en effet.
Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne va pas du tout. Je n'ai rien dans les poches. Vraiment, ça me rend fou. Prête-moi 1000 balles pour aller au bal. Je vais la faire danser et lui faire oublier. Prête-moi 1000 balles. Je donnerai mes cymbales avec ma batterie, ma guitare et mon ampli. Je ne peux pas lui dire que je n'ai pas un rond pour la faire sortir. Il me faut du pognon. Prête-moi 1000 balles pour aller au bal. Je vais la faire danser et lui faire oublier. Prête-moi 1000 balles, je donnerai mes cymbales avec ma batterie, ma guitare et mon ampli. Malgré qu'on me fauche tout l'argent de mes mains, une fille pas trop moche m'a dit t'es un radin. Prête-moi 1000 balles pour aller au bal. Je vais la faire danser et lui faire oublier. Prête-moi 1000 balles, je donnerai mes cymbales avec ma batterie, ma guitare et mon ampli. Prête-moi 1000 balles, je te les rendrai demain, ou bien dans le canal, je noierai mon chagrin. Prête-moi 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles, prête-moi 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles, prête-moi 1000 balles, 1000 balles, prête-moi 1000 balles.
Vous êtes toujours sur le 89.5 de la bande FM, sur Radio Dio, Saint-Etienne et Périphérie, avec aujourd'hui eh bien, au menu le programme du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, consacré à la grève des mineurs de 1963 avec Maurice Bedouin et Jean-Michel Stenner.
Alors, 1000 balles en 1963, c'est 10 francs. Puisque le franc est devenu nouveau franc, c'est-à-dire à peu près 1,50 € d'aujourd'hui. Donc on voit que ce n'est pas une somme énorme, doit correspondre sans doute à l'entrée au bal. Le bal, c'est la grande activité des jeunes de samedi soir, des jeunes ouvriers en particulier, des jeunes mineurs. Et je crois que ce qui est intéressant aussi dans cette chanson, c'est qu'on y trouve les rythmes qui sont très à la mode à l'époque, les rythmes des yéyés, avec la guitare électrique qui parle de son ampli, avec aussi ses arpèges très déliés qui sont vraiment caractéristiques de l'époque. Mais bon, pour les grévistes de 63, l'affaire est infiniment plus sérieuse. 1000 balles, c'est quand même une grosse affaire.
Alors, une grève sérieuse, une grève très digne, qui se fait dans le calme, avec les mesures de sécurité qui sont prises. Les leaders syndicaux se font parfaitement respecter et absolument pas débordés. Ils réussissent même a demandé aux mineurs de redescendre 2 jours au cours du mois de mars pour piquer suffisamment de tonnage et approvisionner la coquerie de la Cilardière. Mmh. Et le préfet, dans son rapport qu'il délivre au mois d'avril, se montre avoir une vraie sympathie pour ce mouvement parce que c'est un mouvement qui a été maîtrisé par le monde syndical.
Il y a une volonté de se démarquer du précédent de 48.
Bien sûr. Cette grève-là, quand on parcourt les journaux de l'époque, est ponctuée par 2 grandes manifestations. La manifestation du 6 mars, qui a réuni 10 000 personnes à Saint-Étienne. Et on a là une double page sur le progrès, dont une page entièrement composée de photos assemblées, avec des marées humaines impressionnantes. Et la deuxième manifestation a eu lieu le 19 mars, avec cette fois 30 000 travailleurs qui sont venus de tout le département et qui ont rassemblé évidemment les ouvriers de toutes les corporations. Nous avons retrouvé parmi les archives de l'INA un tout petit reportage de 33 secondes qui nous en dit long, assez long, sur la difficulté des journalistes à travailler à l'époque.
Dans le bassin de la Loire, la grève des mineurs est toujours totale. Les cadres solidaires des grévistes assurent cependant la sécurité. C'est ainsi que la coquerie de la Filardière continue à fonctionner, de même que la centrale du Bec. Cependant, les piquets de grève ont été renforcés et il n'est plus possible d'accéder au carreau de la mine, même pour les journalistes. Néanmoins, ce matin, la paye des mineurs a eu lieu sans incident.
Les autres professions ne sont pas indifférentes à ce qui se passe du côté de la mine et elles apportent leur soutien d'une façon ponctuelle. C'est ainsi que la SNCF arrête de travailler 2 heures le 12 mars. Les métallos arrêtent le travail de 2 heures à 4 heures le 13 mars. Et le 15 mars, grève générale de 24 heures à la SNCF avec meeting qui a extrêmement perturbé l'économie stéphanoise et l'économie du département qui a eu peut-être beaucoup plus d'effets que la grève des mineurs qui s'est éternisée. Et puis enfin, grève des postiers pendant 3 jours à partir du 16 mars avec des grèves tournantes avec le soutien notamment pendant ces 3 jours du 16, 17, 18 mars de la SNCF, des ouvriers du textile et des ouvriers de la masse, les ouvriers de la masse qui ont débrayé à 100%.
Toutes sont des grèves de solidarité.
C'est des grèves de soutien, oui. Soutien des pays voisins aussi, les Pays-Bas qui refusent de débarquer les bateaux charbonniers dont le charbon serait Rotterdam. Acheminé sur la France. Et puis alors, on le disait un tout petit peu tout à l'heure, soutien des corps constitués. Le congrès, le 5 mars, le congrès des maires de France désapprouve le décret de réquisition. Le 6 mars, le comité directeur du Parti socialiste SFIO déclare son appui aux mineurs. Et par ailleurs, les conseillers généraux du Pas-de-Calais demandent la levée de la réquisition. L'Église prend une part extrêmement active. Et c'est l'évêque d'Arras, Mgr Huyg, qui le premier assure « cette grève nous concerne tous ». Et je crois que c'est tout à fait dans les jours suivants, le lendemain, que l'évêque de Saint-Étienne, Mgr Mazier, reprend le titre « cette grève nous concerne tous » et demande aux chrétiens, par une lettre qui est distribuée dans les églises le dimanche suivant, d'avoir une attitude extrêmement proche de cette corporation des mineurs.
Il y a donc un changement, encore une fois, significatif par rapport à 48, ce qui nous amènerait peut-être à nous poser la question, quelle est l'attitude des syndicats hors CGT, notamment CFTC et Force ouvrière ?
Alors, les syndicats... nous avons FO et la CFTC qui ont eu une attitude extrémiste dès le mois de janvier, où ils affirmaient que l'issue ne pouvait se trouver que dans la grève générale et illimitée.
C'est un étonnant renversement par rapport à 48.
Fait, ouais. La CGT, elle, se montrait beaucoup plus réservée, toujours peut-être tirant
sans doute, oui.
Les conclusions de 48. Et la CGT a annoncé une quinzaine d'actions à partir du 1er mars qui devaient débuter par 48 heures de grève. Et c'est parce que finalement, il y avait dans cette quinzaine d'actions ces 48 heures de grève que les trois syndicats ont dit « Allez, on marche, on démarre la grève » et qu'ensuite, au bout de 48 heures, la CGT n'a pas eu le courage de dire « Nous arrêtons ».
Oui, donc effectivement, il y a un renversement complet. Puisqu'en 48, on rappelle que la CFTC est d'accord pour 24 heures de grève, point final. Et sur le plan de l'organisation dans les puits, est-ce qu'il y a des choses qui sont
piquet de grève, oui. Piquet de grève, bien sûr. Et le journal insiste beaucoup sur la place des femmes, avec une photographie de femmes qui participent à un piquet de grève à Courriot. Est-ce que l'information n'a pas été montée en épingle, comme on pourrait dire, parce que lorsqu'il nous a été possible d'interroger les gens sur l'époque, fort peu ont le souvenir de la participation des femmes au piquet de grève.
Et on avait entendu Victoria Flatey, qui faisait le parallèle entre 48 et 63. Tu te souviens, à une époque, sur la solidarité, sur les quêtes oui.
C'était formidable, oui. Alors, la solidarité laisse dans la mémoire des mineurs de l'époque des images très, très présentes. La collecte sur les marchés, l'appel aux autres corporations, les enseignants du SNI ont versé un jour de salaire. Les métallos versent une heure de salaire chaque semaine. Et puis, écoutez bien, les matchs, l'ASS a souhaité jouer un match contre Toulouse au profit du comité de solidarité avec entrée gratuite aux mineurs, mais toute la recette a été versée au comité de grève. On a 9 orchestres qui ont offert leurs profits et qui ont été récoltés au cours des bals. Et puis alors, à signaler, peut-être qu'on en reparlera par la suite, la séance du Conseil général qui a voté son aide, une aide de 50 000 francs aux familles de mineurs.
D'autant plus étonnant que le Conseil général, rappelons-le, est à l'époque présidé par un certain Antoine Pinet.
Tout à fait. La collecte totale a permis d'amasser un véritable trésor de guerre et le 27 mars, les syndicats ont pu payer une indemnité de grève à chaque famille qui avait été touchée. Chaque famille a reçu 10 000 francs. Et par souci d'égalité avec les autres gisements ou les autres bassins, où la solidarité n'avait pas été aussi populaire et aussi réussie, le surplus a été distribué au comité de solidarité du Nord-Pas-de-Calais.
Oui, alors après, effectivement, tous ces changements par rapport à 48 et puis cette force de la solidarité, je crois qu'il faut quand même rappeler aussi qu'on est en 1963, peut-être dire quelques mots sur le changement du contexte. La guerre d'Algérie vient de s'achever et la France, qui était un peu dans l'expectative, qui regardait De Gaulle agir sur cette affaire d'Algérie depuis 4 ans, tout d'un coup, on revient, je dirais, à l'ordinaire, au quotidien, c'est-à-dire aux luttes sociales telles qu'on les a connues et qui ne sont plus suspendues par le risque de coup d'État ou par le risque de guerre civile que faisait peser le climat de la guerre d'Algérie. 63 peut donc être considéré comme un vrai tournant dans l'histoire sociale et le redémarrage d'une combativité ouvrière qui va plus cesser d'augmenter jusqu'en 1968.
Alors maintenant, comment s'est terminée la grève ? Donc, on le disait tout à l'heure, réunion d'un comité des sages, singulière initiative, mais qui va ensuite devenir quelque chose d'assez classique lorsqu'un gouvernement ne peut pas résoudre une crise. On fait donc appel à des experts et le préfet, dans son rapport, dénonce d'une façon très véhémente cette attitude d'avoir fait appel à un comité des sages. Parce qu'il dit « la grève a duré, le gouvernement était parfaitement au courant des décalages de salaire » de la dégradation des niveaux de vie. Il n'avait absolument pas besoin d'un comité des sages, et je crois qu'on peut lui donner entièrement raison, mais il s'est déchargé de la prise de décision. Et en définitive, il le dit avec un très grand courage, c'est la preuve du manque d'autorité du gouvernement de l'époque, c'est le gouvernement gaullien pourtant, et ce manque d'autorité fera que, en d'autres occasions, les syndicats se souviendront de la faiblesse du gouvernement. Mmh. Et je pense à 68.
Et bien sûr. Hein? Bien sûr.
Le préfet de l'époque était Francis Grève. Il venait juste d'entrer en fonction le 21 mars 1963. Lionel sourit parce que c'est un nom prédestiné, hein, Francis Grève. Il n'avait donc pas beaucoup d'ancienneté dans la fonction. Et avec beaucoup de courage, il dénonce la non-utilisation de ses services pendant la grève. Toutes les décisions ont été prises par le gouvernement central et, dit-il, le préfet a pour rôle de nouer des liens avec les syndicats et d'informer le pouvoir central des situations. Et j'étais en mesure d'apporter des informations. Et il mentionne par ailleurs que, sur le plan politique, les relations ont été en fait maintenu avec les syndicats par Lucien Neuwirth, député UNR, qui a rencontré les syndicats à plusieurs reprises parce que les uns et les autres se tenaient en haute considération, puisque aux élections législatives de 1962, les syndicats de mineurs avaient exercé une parfaite indépendance. Ils n'avaient absolument pas donné de mot d'ordre de vote. Et Lucien Neuwirth leur avait été très reconnaissant.
Oui, je crois qu'on peut ajouter aussi, puisqu'on a un petit moment pour développer, pas tout à fait hors sujet, mais sur cette question, que Lucien Neuwirth, ancien résistant, avait des liens avec d'autres résistants, dont Joseph Sangdols, ancien mineur et secrétaire général de l'UDCGT, qui le même Sangdols, qui a joué un rôle non négligeable en 1961, au moment du coup d'état des généraux d'Alger, en mobilisant les syndicats pour défendre la préfecture de la Loire en cas d'éventuel débarquement des parachutistes. Donc il y a des liens personnels là qui existent et qui font que sans doute Neuwirth a éprouvé cette reconnaissance dont tu parles.
Alors, le préfet ose mentionner qu'il y aurait peut-être volonté de pourrissement de la grève en la laissant s'éterniser. Il estime que 15 jours auparavant, la grève aurait dû s'achever en accordant, et les mineurs auraient probablement obtenu les mêmes avancées. Alors, parlons un petit peu des avancées qui ont été obtenues. Augmentation des salaires au 1er avril 1963. Et au 1er janvier 64, et si l'on additionne ces augmentations de salaire, cela correspond aux 11% qui avaient été demandés au départ. Au 1er janvier 65, 150% sur les salaires du 1er janvier, 1,5% pardon, sur les salaires du 1er janvier 64. Et après, les salaires des mineurs, il est convenu, devront suivre la même évolution que les salaires du secteur privé. Autrement dit, c'est un simple rattrapage, c'est pas grand-chose. Mais c'était ce que les mineurs avaient revendiqué. Au niveau des congés, la quatrième semaine est accordée avec une prime de 200 francs. Il y a des discussions qui commencent sur la durée du travail. Et surtout, c'est le début de la convocation d'une table ronde sur l'avenir des charbonnages. Et je crois que nous allons terminer là-dessus. Hein.
Oui, je crois qu'il y a à la fois des rattrapages, comme tu l'as dit justement, qui montrent que le salaire des mineurs avait pris du retard parce que de plus en plus, au niveau du gouvernement, on considérait que les charbonnages s'étaient un petit peu dépassés. Mais il y a aussi des avancées, puisque la quatrième semaine de congés payés dont tu parles, les charbonnages l'obtiendront avant d'autres entreprises et oui, elle ne sera généralisée qu'en 1968.
Oui, oui.
Il y a un point sur lequel il faut revenir parce qu'il a encore des conséquences aujourd'hui. C'est que cette grève pour laquelle le gouvernement a été obligé de prendre un ordre de réquisition, elle a amené une nouvelle étape dans la réflexion sur ce dont on parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire la régulation des conflits sociaux est-elle ou non possible ? Peut-on anticiper ou non, comme ça se fait dans certains pays, notamment en Allemagne ou dans les pays scandinaves ? Alors, c'est à la suite de cette grève que le 27 juillet 1963, sur proposition du gouvernement, l'Assemblée générale a adopté le projet de loi qui réglementait le droit de grève dans le secteur public. Dans le secteur public. Alors, cette loi donc, du 31 juillet 1963, elle précise donc que les personnels civils de l'État, des départements et des communes, ainsi que les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés, lorsque ces entreprises, organismes ou établissements sont chargés de la gestion d'un service public, donc le charbonnage rentre dans ce cadre, ces personnes ne peuvent entrer en grève qu'à condition d'avoir déposé un préavis de 5 jours. Et ce préavis de 5 jours, avant le déclenchement de la grève, il est conçu dans l'esprit du législateur, dans l'esprit du gouvernement, comme un moyen d'engager la discussion avant que le conflit ne soit effectif. Donc il y a bien ici une tentative de revenir sur... C'est une vieille discussion qui remonte aux années 1890. C'est-à-dire l'arbitrage entre salariés et employeurs doit intervenir avant tout conflit. Et depuis 1890, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu la loi de 1892. Ces tentatives ont plus ou moins tourné court. Là, on voit que le gouvernement gaulliste essaye de revenir à cette volonté de réguler un peu les rapports sociaux en prenant appui sur le secteur public. Il ne s'agit pas encore du secteur privé, mais en utilisant donc le cadre de cette grève. Le contexte ou l'exemple que cette grève a donné. Je rappelle que le préavis est toujours valable aujourd'hui, mais par exemple qu'en 68, le préavis n'a eu aucun effet. Hein. La grève s'est généralisée très vite. Mais c'est intéressant de remarquer que cette grève des mineurs a amené donc cette réflexion sur la discussion préalable avant tout déclenchement de conflit. Alors ensuite, bien sûr, 63, c'est aussi une étape dans le début la continuation, plus exactement, du recul de l'exploitation charbonnière. Je crois que ce recul, il peut se scander de deux façons. D'abord, en mesurant le nombre de salariés. Donc on a vu qu'entre 45 et 63, il y avait eu un net recul. Si je prends l'exemple... du bassin de la Lorraine, par exemple. J'ai quelques chiffres ici. En 64, il y avait 46 000 salariés en... Non, pardon, en 58, il y avait 46 000 salariés en Lorraine. En 67, le chiffre est tombé à 34 000. À l'inverse, la productivité fait des bons spectaculaires. Un mineur... Tout bassin confondu, les chiffres du nord de la Lorraine et de la Loire se rapprochent assez. En 1947-48, abat en moyenne 700 kilos de charbon par jour. Si je prends le cas de la Lorraine de nouveau, en 69, c'est plus de 3 tonnes et en 74, plus de 6 tonnes. Donc la mécanisation, le recours aux machines font que l'exploitation devient de plus en plus productive. Et la réduction donc de la production, elle va passer par, j'ai cité tout à l'heure le plan Jeanneney. Ensuite, en 68, il y a un nouveau plan qui est présenté par André Bettencourt, ministre de l'Industrie. Elle ne sera finalement pas appliquée aussi rapidement que prévu en raison de la crise pétrolière de 73. Néanmoins, on sait que des grands géants du bassin ferment. En 73, c'est Courriot. Et en 1983, c'est le puits Pigeot, le puits Charles. Je ne sais pas si tu as la date précise en tête, mais c'est entre les deux. Mmh. Donc le puits Pigeot qui a été le symbole finalement de la fermeture de ces houillères. Tu voulais rajouter quelque chose à ce propos ?
Oui, parce que le plan Jeunet, dans ses généralités, montre que il y a déficit de rentabilité. Mais évidemment, ce plan Jeunet est renvoyé aux différentes houillères et sur le bassin du centre Midi. Il a fallu procéder à des adaptations bien plus draconiennes que celles qui sont au plan national. Le plan Jeunenet a été repris par le Conseil économique et social. En fait, c'est le Conseil économique et social qui fait ses propositions. Et voilà ce qu'il propose, le Conseil économique et social. Il propose de diminuer de 10% la production entre 59 et 65. Mais pour le bassin de la Loire, la diminution doit être de 26%. Alors, ce qui est absolument invraisemblable, c'est que les houillères de la Loire ont anticipé sur les demandes du Conseil économique et social et qu'en 63, on était bien en avance sur ce qui avait été fixé. On était pratiquement au niveau de ce qui avait été exigé pour 65. Alors, dans toutes les têtes, évidemment, l'inquiétude est grande. Tout le monde a conscience de l'avenir limité de l'exploitation, que ce soit les ingénieurs ou que ce soit les mineurs ou que ce soit les hommes politiques. Alors, je crois que ce qui est tout à fait révélateur, c'est de regarder le compte-rendu de la séance du Conseil général dont on vient de parler du 25 mars 1963. C'est une séance qui a été très longue et à la fin de la séance, Petrus Faure prend la parole et il aborde la question de l'avenir. C'est, à ma connaissance, le seul texte politique en 1963 qui aborde ces questions d'avenir. Et voilà ce qu'il dit avec un bon sens assez redoutable. Il dit, bah oui, on accuse le département, le bassin de la Loire, on dit qu'il est déficitaire. Et ben pourquoi ? Parce que la production par tête du mineur est inférieure de près de la moitié à celle du bassin de Lorraine et inférieure à près du tiers à celle du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. C'est ce que tu disais, Jean-Michel. Ce n'est pas, croyez-le bien, que les mineurs du bassin de la Loire soient paresseux. Au contraire, ils sont cités parmi les meilleurs ouvriers de France. Mais c'est parce que les conditions géologiques dans lesquelles ils travaillent sont tout à fait différentes. Et puis un petit peu plus loin, voilà ce qu'il ajoute. Voilà comment la situation se présente. Nous allons essayer en quelques mots de l'analyser. La production dans le département de la Loire est déficitaire, mais les houillères nationales sont un tout. Et là, il y a un raisonnement qui devient intéressant. Écoutez bien. Le réseau ferroviaire a bien des signes déficitaires et d'autres plus rentables. Dans les PTT, c'est la même chose. Il y a des bureaux déficitaires et d'autres rentables. Par conséquent, l'argument qui consiste à dire « il est déficitaire, il faut le supprimer » ne tient pas. Il s'agit pour l'industrie du charbon, comme pour le chemin de fer ou les PTT, d'une question nationale. Alors, je crois que là, oui, on a une intervention qui vaut la peine.
On reconnaît bien la formation du syndicaliste, de l'anarcho-syndicaliste Petrus Faure, maire du Chambon, qui n'est plus anarcho-syndicaliste en 65, mais qui est resté marqué par cette tradition, effectivement, du service public. Puisque la fermeture, la fin du site du bassin minier stéphanois se marque par la destruction du puits Pigeot, on va entendre non pas une chanson, mais une mélodie qui a été écrite par deux Ricamandois, Cheka et Guillaumont. Et sur cette mélodie, le texte d'un poème qui devrait être mis en chanson, qui s'appelle « La complainte du géant », qui parle donc de la destruction de ce puits. Texte lu par Madeleine de Barba, fille de mineur, donc le père, a travaillé pendant plus de 30 ans donc sur le site de Pigeot.
La complainte du géant. Il est là, le géant dominant la vallée, de sa stature immense, il a l'air étonné, humilié dans le grand silence. Lui, le colosse, le plus beau puits de France. car c'était une star, notre beau Pipigeot, docile comme un enfant, mais très bien dans sa peau. Et l'on parlait de lui, même de l'étranger, on lui rendait visite, on venait l'admirer. Il avait une amie, elle s'appelait Londaine, elle l'avait vu naître et c'était sa marraine. Il connaissait nos joies, prenait part à nos peines, lui c'était le roi, elle c'était la reine. Tous deux s'entendaient bien et ils étaient ravis d'être les deux fleurons de la ricamarie. Le puits Pigeot est triste, il sait qu'il va mourir. C'est fini les sursis, entendez-le gémir. C'est le vent, direz-vous? Non, moi qui le connais bien, je sais qu'il est choqué et qu'il a du chagrin. Par une nuit sans lune, je me suis approchée tout près de lui, presque à le toucher. Et là, tendant l'oreille, j'ai entendu tout bas. Mais je les aimais bien, moi, les ricamandois. Quand je serais tombée, pas de fleurs ni couronne. Dis-leur que je comprends et que je leur pardonne. Mais quand vous fêterez Sainte-Barbe dans la joie, alors, de temps en temps, pensez un peu à moi.
Oui, alors je crois qu'il faut aussi remercier très chaleureusement Hervé Clignez, clarinettiste, professeur au conservatoire, qui a interprété la mélodie de cette très belle chanson.
C'est la fin de ce programme, réalisé donc avec le Grémos, on le rappelle. Cette émission sera à retrouver en ligne sur le site du Grémos, www.grémos.l'autre.net. On rappelle également que, à propos de mines, de mineurs, c'est aussi la main-d'œuvre étrangère qui est à l'honneur actuellement au travers d'une exposition visible au Parc Courriot, Musée de la Mine, d'ici et de là-bas. Une exposition qui a fait l'objet d'une émission spéciale ici même, qui devait se clôturer en mi-janvier et qui finalement est prolongée jusqu'au 30 mars prochain. Donc, exposition toujours visible. Merci Jean-Michel, merci Maurice. On retrouve l'émission du mois de mars, le troisième jeudi, donc du mois prochain. Je propose de terminer tout simplement en musique, rapidement, et bien avec la version instrumentale, Jean-Michel.
Hervé Clignez.
Hervé Clignez, tout à fait. À très bientôt.
Merci,
au revoir. Merci, au revoir.